Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce mercredi matin est Antoine Ravard, premier secrétaire du Parti Socialiste des Côtes d'Armor, candidat au municipal à Lamballe-Armor, j'ajoute même porte-parole du PS, en tout cas pour les Côtes d'Armor. Bonjour Antoine Ravard.
Bonjour.
On va parler, je le disais tout à l'heure en préambule, de politique, on va parler des municipales et on va même parler de budget et de la question qui fâche au PS. Est-ce que le PS a trahi ?
Trahi qui ? Parce qu'on fait de la politique quand on est au Parti Socialiste avec des convictions, avec des gens à défendre et les priorités. Lorsqu'on nos députés sont rentrés dans la discussion sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, c'était il y a 6 semaines maintenant, nous avions annoncé des priorités claires sur la réforme des retraites. Nous avons eu gain de cause, puisque l'année prochaine, ce sont 400 000 personnes qui pourront partir à la retraite entre 3 mois et 6 mois plus tôt que ne le prévoyait la réforme Borne. Nous avions dit que nous défendrons la France qui travaille, que nous défendrions les malades, les retraités, les apprentis. Parce que quel était le projet de budget à l'origine, qui était soumis à nos députés il y a 6 semaines ? C'était la suppression de 2 jours fériés. Nous avons annulé cette mesure. C'était une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Nous avons fait annuler cette mesure également. C'était le gel des minima sociaux, des pensions de retraite, notamment pour nos petites retraites, et du barème de la CSG. Le gel du barème de la CSG, ce n'est pas anecdotique, c'est 4 milliards d'impôts nouveaux pour les Français à petits revenus. Nous l'avons dit, nous défendons cette France qui travaille, mais qui gagne peu de revenus, notamment celles et ceux qui sont à temps partiel, et qui, avec le gel du barème de la CSG, auraient été soumis à cet impôt. Grâce à nous, ils ne le sont pas. C'était aussi le doublement du franchise médical. C'est-à-dire que quand vous êtes malade, si on avait suivi le gouvernement et ce projet de budget, en allant chez le médecin, chez le dentiste ou à la pharmacie, vous auriez payé 2 fois plus cher votre reste à charge. Ça aussi, nous l'avons fait annuler. Donc, pour toutes ces raisons et pour tant d'autres encore, évidemment, l'augmentation du budget de l'hôpital public de 4 milliards par rapport à ce qui était initialement prévu, quand on sait les tensions, y compris en Côte d'Armor, sur l'hôpital et sur la santé publique. Nous n'avons absolument pas de regret d'avoir voté hier ce budget qui était auparavant qualifié de musée des horreurs par les organisations syndicales et qui, la CFDT l'a rappelé, était aujourd'hui un moindre mal. Les députés écologistes aussi ont décidé de s'abstenir. Alors évidemment, ce n'est pas le budget que nous aurions proposé si nous avions une majorité absolue, mais nous n'en avions pas. Personne n'en avait. Il fallait faire confiance au régime parlementaire pour aboutir à ce budget de compromis.
Et il y avait urgence, car on l'aura compris, la situation est compliquée. Le budget de la France va être voté, en tout cas le budget de l'État. C'est un autre texte budgétaire qui doit être voté. Là aussi, on sait que ça va être un peu, permettez-moi le terme, il est un peu trivial, mais à l'arrache. On a vu qu'il y avait peu de marge. Je crois que c'est 13 voix qui ont permis Exactement. L'adoption de ce budget. Et il y a aussi vos détracteurs qui disent, voilà, alors plutôt à droite ou plutôt au Rassemblement National, qui disent voilà, aujourd'hui, on a encore augmenté la dette de la France parce qu'on va encore payer plus pour pouvoir mettre en place ce budget. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Mais on va payer plus, notamment à l'hôpital, mais parce que la population vieillit, parce qu'il y a de plus en plus de personnes à mettre dans les hôpitaux. Donc, il est normal que l'on paye plus, parce que si vous gardez le même budget, mais avec davantage de gens à soigner, parce que la population vieillit, parce que l'espérance de vie en bonne santé augmente, ça veut dire que la qualité de la santé, finalement, se dégrade. Donc, évidemment que nous assumons ce budget. La réalité, c'est que la situation financière de la France n'est pas mise en danger par le vote de ce budget. Et c'est là aussi toute la satisfaction qui est celle des socialistes. Et puis surtout, nous avons supprimé toutes les mesures absolument injustes que je mentionnais juste auparavant.
Avec la France insoumise hein, qui s'est désolidarisée, qui n'a pas voté ce budget, qui a reproché, qui a pointé du doigt d'ailleurs le Parti Socialiste, la rupture est consommée. Je vous pose la question un petit peu à brûle pour point comme ça.
Oui. Totalement, absolument. Moi, je l'ai dit dans le département, en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste en Côte d'Armor, nous n'aurons pas d'accord avec la France Insoumise aux élections municipales. À titre personnel, à Lamballe, je n'aurai évidemment pas d'accord avec la France Insoumise aux élections municipales. Tout simplement parce que leur attitude dans ce budget est une nouvelle preuve. En réalité, la décision, nous l'avions prise avant, du fait d'un certain nombre de dérives idéologiques et morales ces derniers mois, ces dernières années. Mais la réalité, c'est que leur attitude, encore une fois, sur ce budget, la France insoumise, à travers Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens, n'a calqué son attitude sur ce budget que sur un seul objectif, l'élection présidentielle. Mais c'est aussi ce qu'a fait le Rassemblement national. C'est aussi ce qu'a fait Horizon avec Édouard Philippe, qui se veut le parangon de l'équilibre budgétaire et qui, du coup, a décidé de ne pas soutenir ce budget. Les seuls, dans la discussion budgétaire, qui ont fait un choix qui va contre notre intérêt propre pour l'élection présidentielle et contre les sondages, eh ben c'est nous, les socialistes, parce que nous assumons de dire que dans la situation, il fallait un budget de la sécurité sociale à la France. Moi, j'entends ceux qui disent « il fallait pas ce budget, on en aurait voulu un autre, nous aussi, on en aurait voulu un autre ». Mais si on n'avait pas voté celui-là, c'est pas celui des socialistes et de la gauche qui serait passé. C'est la version initiale, celle de François Bayrou, qui serait passée par ordonnance ou par 49-3. Donc moi, je préfère 50% de réussite que 100% d'échec.
Avec une autre bataille, hein, je le disais, le budget de l'État, c'est ce qui va occuper les parlementaires dans les quelques semaines qui viennent. Là aussi, avec une urgence, pouvoir le voter, ce budget de l'État, les socialistes sont prêts, là aussi, à aller au compromis, à avoir une position de parti de gouvernement.
Bon, l'État, le budget de l'État, il est absolument inacceptable pour nous, et donc il ne sera pas voté, bien évidemment. Les socialistes, sur ce texte-là, comme sur d'autres, veulent de toute façon rendre le pouvoir au Parlement. Nous avons une chance inouïe depuis la dissolution, même si c'était une décision catastrophique du président de la République qui a mis la France dans une situation d'instabilité chronique, c'est de démontrer que le parlementarisme doit être un régime d'avenir pour la France et qu'il faut mettre fin à cette espèce de monarchie présidentielle qu'est la Ve République. Si on veut faire cela, il faut faire confiance au travail des parlementaires. Moi, j'ai confiance dans la qualité du travail de nos parlementaires, qu'ils soient socialistes ou d'ailleurs s'ils décident d'y mettre du leur et qu'ils ne pensent pas qu'à l'élection présidentielle. Donc là aussi, les socialistes iront chercher des avancées et puis la décision sera prise. Mais en l'état, on votera évidemment contre le projet de budget tel qu'il est aujourd'hui.
Voilà, il peut encore évoluer le budget.
Ah bien, normalement, le projet, il devrait évoluer dans les semaines qui viennent.
Alors, il y a des répercussions. On entend beaucoup les Français avoir des craintes pour leur avenir. Alors, il y a la situation, certes, géopolitique qui est très compliquée aujourd'hui. Puis, il y a la situation française. Comment boucler les fins de mois? Comment passer de belles fêtes de Noël? On y arrive dans quelques jours. Il y a une grande angoisse aujourd'hui sur l'avenir, sur le travail, sur le lendemain. Comment redonner aussi aujourd'hui espoir aux Français? Comment expliquer que, finalement, on est dans une mauvaise passe mais que tout ne va pas si mal?
Écoutez, il faut prendre le temps d'aller discuter. Moi, c'est ce que je fais tous les jours comme candidat. C'est le béaba de l'engagement politique. Mais si chacune et chacun prenait le temps de le faire, moi, dans le cadre de la campagne pour les élections municipales, j'ai démarré il y a plusieurs mois un porte-à-porte massif avec l'objectif d'aller frapper à toutes les portes. J'ai dépassé la semaine dernière le seuil de 5000 portes frappées. Et je peux vous dire que de ces centaines et centaines de discussions avec des habitants de Lamballe-Armor, ressort évidemment une inquiétude de court terme, celle de la fin de mois, celle due à l'inflation, à la situation économique, une inquiétude de long terme, de très long terme, avec évidemment la peur de la guerre, et puis une inquiétude face à l'instabilité économique. Donc il faut aller à la rencontre de nos concitoyens. Et puis surtout, il faut, moi c'est ce que je vais porter aussi à Lamballe-Armor, à mon échelle, mais il faut faire la même chose à l'échelle du pays. Il faut porter des projets capables de rassembler la nation, d'apaiser le débat qui aujourd'hui est absolument fracture la société française. Il faut apaiser ce débat, baisser d'un ton, si j'ose dire, pour rassembler autour d'un projet collectif qui permette de faire avancer territoire par territoire.
Alors, vous parliez du terrain, Antoine Ravard. C'est important, le terrain, on le voit aujourd'hui. Il y a une demande, justement, des Françaises, des Français. Alors, je vais dire des Lamballais, des Lamballaises, hein, puisque vous êtes sur le terrain à Lamballe-Armor. Aujourd'hui, il y a une fracture entre le monde politique, en tout cas les femmes, les hommes politiques, et les Françaises, des Français. Et là aussi, il y a un fossé à combler, il y a à expliquer, il y a à retisser des liens.
Il y a une fracture au niveau national, principalement.
Oui, au niveau national, je l'entends. Hein.
Il faut effectivement travailler à retisser des liens. Il faut que le Parlement ne soit plus le théâtre qu'il a pu être ces derniers mois. Il faut que le président de la République respecte les résultats des élections. Enfin, il faut un certain nombre de conditions pour que, évidemment, la confiance soit rétablie en l'État. Ce n'est pas le cas, évidemment, et moi, je le déplore, puisque dès que l'on manque de confiance, ce sont les partis populistes, malheureusement, qui s'installe. Et on voit aujourd'hui venir le risque d'une victoire de l'extrême droite, contre laquelle nous ferons tout pour qu'elle n'arrive pas, évidemment, à gauche, au Parti Socialiste d'abord. Passe par les élections municipales. Excusez-moi, mais ça passe par la proximité, le retour de la politique de proximité. Il faut retourner, écouter, construire ensemble, faire avancer le pays ensemble. Nous savons le faire ici en Bretagne, c'est une région particulière pour cela. Le vivre ensemble breton est exceptionnel. Prenons exemple sur les territoires et puis nous arriverons à avancer.
Alors justement, devant le péril, si demain le Rassemblement National est aux portes du pouvoir, alors là j'anticipe un peu, on va revenir au municipal, mais est-ce que là encore devant le péril, on peut imaginer une espèce de front républicain où ça n'aura pas lieu? On a entendu l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui fait la promotion de son livre en ce moment, dire qu'il avait eu une conversation avec Marine Le Pen et que lui n'appellerait pas à ce front républicain. Est-ce qu'il y a motif d'inquiétude là, justement?
Le Front républicain, nous l'avons fait à gauche au moment de la dissolution en 2024. Nous l'avons fait sans exception dans 100% des circonscriptions où il nous revenait de nous retirer pour éviter la victoire d'un député d'extrême droite ou d'une députée d'extrême droite. Nous l'avons fait. Le Front républicain, il a été tué une première fois par Emmanuel Macron quand il a refusé de prendre en compte le résultat des élections législatives, qui lui disait que sa politique avait été battue dans les urnes. Il a été battu effectivement une seconde fois récemment par la droite, que ce soit Bruno Retailleau qui nous a dit, ou Laurent Wauquiez, les deux, que le Rassemblement national était dans l'arc républicain, ou Nicolas Sarkozy qui vient maintenant plaider pour l'union des droites. 20 ans d'une stratégie que nous avions vu venir chez Nicolas Sarkozy, toujours draguer l'extrême droite. Aujourd'hui, ils défendront une union. Manifestement, il n'y aura donc plus de Front républicain à droite. À gauche, nous serons toujours exemplaires pour deux si nécessaire, parce qu'on ne rigole pas avec l'extrême droite.
Là aussi, c'est le terrain qui peut... Là encore, on est bien d'accord, ce sont deux élections différentes, la présidentielle et les municipales. Mais on peut imaginer quand même qu'il y a un petit peu de présidentielle dans ces municipales-là, à savoir que le débat de la politique nationale s'invite un peu sur le terrain municipal. Est-ce que vous le sentez aussi dans le propos des Lambalais, des Lambalaises que vous croisez chaque jour et avec qui vous discutez?
On le sent, évidemment, le risque d'instabilité et l'instabilité chronique de ces derniers mois inquiète nos concitoyens. Elle nous inquiète tous en réalité, parce que c'est pas agréable de se lever tout le matin en se demandant, alors que les fêtes de Noël arrivent, que ce doit être un moment agréable où on se retrouve en famille, de se demander si la France aura un budget avec les impacts, je le disais, de se demander si ça va coûter plus cher d'aller chez le médecin, de se demander si on va devoir payer plus de CSG, de se demander si on va pouvoir partir à la retraite plus ou moins tôt. Évidemment, la stabilité et le manque de stabilité sont des sujets. Malgré tout, moi, j'ai toujours eu grande confiance dans les Françaises et les Français. Nous sommes un peuple épris de politique depuis fort longtemps, et tant mieux. On remarque une grande connaissance dans les discussions que nous avons avec les concitoyens à Lamballe-Armor sur les compétences de la mairie, donc sur les projets qui sont du domaine municipal et que nous portons. Parce qu'évidemment, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'un maire doit être apolitique. La preuve, je viens et j'ai un regard sur la politique nationale, mais mon projet est évidemment un projet municipal. Et on parle de la crise du logement, on parle de la qualité du travail, on parle du développement économique, on parle de la place de la culture, on parle de la solidarité à Lamballe-Armor, on parle de la proximité, de tout un tas de sujets essentiels.
On a le sentiment que Lamballe-Armor est un terrain un petit peu, en tout cas un territoire un petit peu protégé. Il y a une belle dynamique économique aujourd'hui. Il y a aussi peu de chômage finalement, mais il y a quand même de la précarité. Il faut faire attention justement à cette montée de la précarité.
Alors d'abord, oui, on a une chance inouïe à Lamballe-Armor d'avoir un territoire qui, depuis 30 ans, depuis que la gauche gouverne cette commune, d'abord c'était Lamballe, Mélin, Plangonois, Morieux et puis Lamballe-Armor désormais. On a la chance d'avoir évidemment une commune dynamique, extrêmement dynamique sur le plan associatif. Nous sommes la commune du département où il y a le plus d'associations, extrêmement dynamique sur le plan du commerce, sur le plan de l'économie, sur le plan du tourisme aussi désormais. Évidemment, nous n'avons pas de chômage. Plus faible bassin de chômage avec celui de Vitré dans la région Bretagne. Et ça, c'est une fierté. Néanmoins, vous l'avez dit, vous avez raison, il y a une hausse de la précarité. Il y a, dans un territoire industriel, ça aussi, nous sommes très fiers d'être un territoire qui est à la fois très beau, qui est à la fois commerçant, qui est à la fois touristique, mais dans lequel il y a encore de la production économique. Et ça, c'est essentiel et c'est cette mixité qui fait le succès de Lamballe-Armor. dans les emplois industriels. On a un certain nombre d'emplois ouvriers ou d'emplois aussi salariés dans le tertiaire, à temps partiel ou autres, qui sont trop peu rémunérés. On va aussi se battre pour l'augmentation des salaires. Moi, c'est un sujet que je veux porter, l'augmentation des salaires des ouvriers, des salariés. La lutte contre les temps partiels subis, parce que c'est aussi parfois les temps partiels subis, qui sont à 90%, concernent des femmes, qui peut entraîner l'impression d'avoir des salaires très faibles. Donc évidemment, il y a un retour de la précarité. J'étais encore la semaine dernière auprès de nos amis de la Croix-Rouge et puis des Restos du Cœur qui ont démarré tristement, hein, évidemment, leur saison et qui nous disaient que le nombre d'inscrits augmentait d'année en année, que ce soit pour les collectes de vêtements ou pour la distribution de paniers repas. Donc évidemment, la lutte contre la grande précarité et la pauvreté doit être un combat à toutes les échelles. Ça doit être un combat au niveau national. Mais ça doit être aussi un combat au niveau local. À notre échelle, nous pouvons, à travers des politiques de logement, à travers des politiques alimentaires, à travers des politiques de financement des associations de solidarité, nous pouvons lutter contre cette grande précarité. Et vous pouvez me faire confiance, ce sera au cœur de notre mandat.
Avec aussi des questions autour de la sécurité. Lamballe est comme les autres villes bretonnes, elle n'échappe pas aux incivilités et puis aux problèmes d'insécurité, même si, je rassure les auditeurs, Lamballe est une ville très paisible. Mais voilà, il y a du trafic de stupéfiants, comme partout ailleurs. Comment là aussi prendre les devants pour éviter que ça, ben, que ça prenne de l'ampleur, comme on l'a vu dans certaines villes, alors des grandes villes, mais aussi quelques villes moyennes?
La première des choses, je veux insister là-dessus, sur ce sujet plus que sur d'autres, c'est d'éviter tout dogmatisme. Et de regarder les faits parce qu'on touche à la sécurité des habitantes, des habitants, donc il faut être le plus sérieux possible. On a effectivement deux recrudescences d'insécurité à Lamballe-Armor, comme ailleurs dans le département. Un, l'augmentation du narcotrafic, et deux, la hausse des cambriolages. Hausse massive des cambriolages ces dernières années, moi je l'ai entendu à de nombreuses reprises, je suis très attentif à ça. Rappelez d'abord une chose. La première responsabilité sur la sécurité dans un pays démocratique comme la France, c'est l'État. La sécurité est du domaine régalien. Et quand Nicolas Sarkozy, d'abord, il y a une dizaine d'années, supprime 9000 postes de policiers et de gendarmes avant que la gauche en recrée 10 000, mais que Emmanuel Macron décide d'en supprimer à nouveau, évidemment, on voit des casernes de gendarmerie fermées, en ce qui concerne les territoires ruraux, et puis ailleurs, des commissariats de police fermés, où on manque également d'effectifs. Donc ça, c'est la première responsabilité. Néanmoins, je ne resterai pas les bras croisés. J'ai pris ce sujet à bras le corps. Nous avons plusieurs propositions fortes dans notre programme. D'abord, nous allons augmenter considérablement les effectifs de la police municipale à Lamballe-Armor et faire en sorte que leurs horaires correspondent aux horaires de la vie nocturne. Parce que leur boulot n'est pas de lutter contre le narcotrafic, mais c'est de lutter pour la tranquillité publique dans l'espace public. Et en étant plus présent aux horaires nocturnes, on donnera du temps en échange à la gendarmerie pour qu'elle se concentre sur le narcotrafic et la lutte contre les cambriolages. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui peut paraître anecdotique, mais qui est en fait très important pour lutter contre les cambriolages, nous allons augmenter les horaires de l'éclairage public. Parce que ça aussi, dans les lotissements des communes rurales, quand il fait sombre, c'est plus facile de faire des cambriolages. Troisième point, nous allons lancer le dispositif des voisins vigilants. Voisins attentifs, pardon, pour être formé à l'échelle d'un quartier, d'un lotissement, à prendre soin de son voisin, de sa voisine, notamment lorsqu'il n'est pas là, de surveiller, de voir s'il y a une intrusion dans le domicile. Et quatrième point, je veux finir par là, sur la vidéosurveillance. Je disais, il faut être sérieux. Moi, je refuse toute position dogmatique. C'est-à-dire, ceux qui les refusent par principe ont tort. Ceux qui tentent de nous faire croire à l'inverse, que mettre de la vidéo partout va régler le problème de la criminalité, ont tort aussi et ils se moquent du monde. Moi, je le dis, il y a déjà quelques caméras à Lamballe, notamment à la gare. Nous installerons, là où leur utilité sera démontrée, des caméras de vidéosurveillance, notamment en centre-ville, pour lutter contre les cambriolages et contre les cambriolages de commerce.
Est-ce qu'il faut armer la police municipale? C'est une grande question que l'on entend depuis plusieurs mois, qui devient de plus en plus prégnante. Là, on l'a entendu par exemple à Rennes récemment avec les fusillades qui ont lieu toujours dans le cadre de ce narcotrafic qui prend beaucoup d'ampleur. Est-ce que là aussi, il faut passer au-delà des dogmes ou est-ce qu'il faut avoir une forme de prudence?
Non, je le redis. La responsabilité de la sécurité et de la lutte contre le grand banditisme, contre le narcotrafic, contre le terrorisme, évidemment, elle est celle de l'État. Vouloir faire en sorte que les polices municipales remplacent la police et la gendarmerie nationale, c'est acter le retrait de l'État, c'est acter la disparition des services publics, et ça, moi, je le refuse. Chacun son travail. Le rôle des polices municipales est de travailler à la tranquillité publique, dans les transports publics, sur l'espace public, lutter contre les incivilités. Chacun son boulot. On ne doit pas armer avec des armes létales la police municipale. Moi, c'est ma position stricte. Évidemment, à Lamballe Armor, ils sont armés avec des armes non létales, hein, des bâtons, des tasers, comme ailleurs, pour les interventions d'urgence. Mais leur responsabilité n'est pas celle-là. Et pour une raison simple, d'abord, ils ne sont pas formés. Et puis, pardonnez-moi d'être très trivial, mais ceux qui demandent cela, quand on donne une arme à quelqu'un, on met sa vie en danger. Parce que ça veut dire qu'il se met en capacité de tirer et de voir un tir lui être envoyé également. Et bien, il faut le former davantage et le rémunérer davantage aussi. Il faut être très pragmatique parfois et ce n'est pas le boulot de la police municipale que d'être armé et de lutter contre le grand banditisme. Chacun à sa place, ça c'est le boulot de l'État. Et nous, dans les communes, nous ferons notre travail pour la tranquillité, je l'ai dit, pour lutter contre les cambriolages, contre les voies de fait sur la voie publique, contre la consommation de drogue sur la voie publique. Et nous travaillerons en lien avec la gendarmerie, le procureur et le parquet sur les questions de narcotrafic.
Autre question, vous l'avez presque évoqué, Antoine Ravard, ce sont les services publics. Aujourd'hui, on a un recul des services publics de l'État dans beaucoup de communes rurales, mais aussi dans les villes moyennes. Lamballe peut être considérée comme une ville moyenne, vous allez me démentir hein, si je dis des bêtises. Mais on a ce recul de services publics qui tend à aller un petit peu demander aux municipalités de le remplacer. Les agences postales ont remplacé la poste, le bureau de poste. Comme on disait jadis. Est-ce que là aussi, il y a un véritable travail à faire et puis reconnecter aussi l'État au territoire ?
Alors, il y a effectivement une disparition absolue des services publics de l'État, vous l'avez dit. Hein, ça s'est passé d'abord par Pôle emploi, France Travail, La Poste. Et puis maintenant, ce sont des fermetures de classes, des fermetures d'hôpitaux, des fermetures de maternité à Guingamp. Moi, permettez-moi de me concentrer sur Lamballe Armor. Si cela ne vous dérange pas, en l'occurrence.
Mais c'était le sens de ma question.
Parce que c'est une commune effectivement moyenne, vous l'avez dit, une ville moyenne, mais c'est aussi une ville moyenne rurale. Lamballe Armor, c'est une ville composée de 8 bourgs distincts. Un bourg central, qu'on prend Lamballe, une partie de Marouet, qui atteint presque les 10 000 habitants. Et puis, il y a 8 000 habitants dans cet autre bourg à l'extérieur. C'est ce qui fait la force immense de notre commune. C'est ce qui la rend magnifique, c'est ce qui la rend agréable. Elle est à la fois rurale, maritime, urbaine. Elle est absolument somptueuse pour tout cela. Moi, je veux insister sur un point. Cette commune nouvelle qui a été créée, effectivement, dans ce premier mandat de cette nouvelle commune, puisque Mélin, Morieux et Planguenal ont rejoint Lamballe Armor il y a peu, elle a parfois donné l'impression d'éloigner les services publics des habitants parce qu'il fallait organiser la nouvelle organisation des pouvoirs avec une seule mairie. Le second mandat, celui qui va s'ouvrir en mars 2026, lorsque je deviendrai maire de Lamballe Armor, ce sera celui de la proximité. Nous maintiendrons, nous, l'ensemble de nos mairies déléguées. Nous augmenterons les ouvertures de nos mairies déléguées et nous ferons tout pour que ces lieux soient des véritables lieux de services publics de proximité. Alors, d'aucuns me diront, ça coûtera un petit peu d'argent public.
Voilà, j'allais vous interroger sur le budget.
J'assume. On a un budget quand on est à la tête d'une collectivité. Ensuite, ce sont des priorités politiques de savoir ce que l'on en fait. Moi, ma grande priorité politique, c'est de mettre du service public en proximité dans chacun des 8 bourgs de Lamballe Armor. La mairie déléguée sera un véritable lieu de service public. Le maire délégué aura une responsabilité sur place, il assurera une présence, il y aura un secrétariat de mairie et ce sera ouvert bien davantage que ça ne l'est aujourd'hui puisque pour certains, ce n'est ouvert que 2 demi-journées par semaine. Et on pourra y faire tout un tas de démarches sans se rendre en mairie centrale. Pour le dire simplement, comme c'est le cas dans les mairies d'arrondissement, dans les très grandes villes, et bien vous savez, en termes d'habitants, nous ne sommes pas une grande ville, mais Lamballe Armor en surface fait une fois et demie Paris. Donc, il n'y a pas de raison que nos mairies déléguées aient moins de responsabilités que les mairies d'arrondissement des grandes villes.
Ça pose aussi la question de la mobilité. Vous le disiez tout à l'heure, on a une population qui vieillit en règle générale dans le pays et dans nos territoires, évidemment ici en Bretagne. Souvent, les gens se plaignent. Bon, alors, c'est un peu le tout bagnole, hein, on a entendu cela. Est-ce qu'il va falloir faire un effort aussi sur les transports collectifs ? On peut imaginer des bourgs au bourg central, si vous me permettez ce terme. Mais aussi pour aller ailleurs, on le voit, à Lamballe, il y a une gare. Est-ce qu'on peut encore améliorer, là aussi, des dessertes ? Est-ce que là aussi, il va falloir faire un effort budgétaire.
Sur les mobilités, il y a effectivement plusieurs points importants à Lamballe Armor. D'abord, vous l'avez dit, on a la chance d'avoir cette gare qui est également une gare TGV et d'être sur la RN12. plusieurs éléments. D'abord, il faut, sur les mobilités, permettez-moi de commencer par la voiture, mais j'irai sur les mobilités douces, il faut terminer les 1,8 km de rocade qui manquent à l'emballe depuis des années. C'est 1,8 km, alors le mot de rocade fait peur, tout le monde imagine immédiatement le périph.
Voilà,
c'est
avec ces embouteillages
parfois. C'est une route départementale d'1,8 km, en deux fois une voie, une route tout ce qu'il y a de plus classique, il manque 1,8 km. Pour réduire le risque d'accident sur la RN12 parce qu'elle est extrêmement accidentogène, permettre le développement économique de la zone est de Lamballe, à commencer par la zone de Longjon, et l'est de Lamballe Terre et Mer, notre agglomération. Désengorger le centre-ville et donc augmenter la sécurité routière, et je pense notamment aux riverains, excusez-moi d'être précis, mais du boulevard Clémenceau, de la rue Foch, de la rue de Dinard, de la rue Paul-Langevin, qui sont aux heures de pointe, qui sont obligés de constater que les rues sont embolisées, par le fait que c'est le centre-ville de Lamballe qui fait office de rocade. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut évidemment développer les mobilités douces. Nous, à notre échelle de commune, nous faciliterons le développement du covoiturage en travaillant avec les entreprises pour que les employés puissent faire du covoiturage, soient valorisés par les entreprises du territoire. Et nous faciliterons aussi le développement du vélo en libre-service en lien avec la région et en installant des parkings vélos sécurisés, vous savez, dans lesquels on peut avoir un code et chaque propriétaire de vélo peut ranger son vélo à l'extérieur. Et puis, il faudra travailler à l'échelle de Lamballe Terre et Mer. Je l'ai proposé d'ores et déjà pour rassembler les 38 communes autour d'un projet de transport en commun qui fonctionne mieux que le Distribus. Le Distribus actuellement était une bonne idée, il fonctionne bien à un niveau, c'est sur le transport à la demande, et notamment le transport à la demande des personnes âgées, des personnes médicalisées. Là, c'est très bien, mais il faut augmenter la cadence, il faut améliorer le fonctionnement, augmenter encore sans doute la répétition du fonctionnement à la demande. Et puis nous voulons effectivement lier les bourgs, donc ce mandat et le suivant, hein, parce que c'est long, devront aussi être ceux de la finalisation du plan vélo de Lamballe-Armor, qui vise à relier l'ensemble de nos bourgs avec des voies vertes, des liaisons vélo douces sécurisées.
Voilà, sécurisées, on l'entend beaucoup aussi.
Sécurisées, évidemment, parce que faire du vélo sur une départementale, c'est plus compliqué que faire du vélo sur une route de centre-ville où une petite piste cyclable suffit en centre-ville. Ah, sur une départementale, il faut mettre un petit peu plus de sécurité parce que les véhicules ne roulent pas à la même vitesse et que c'est bien plus dangereux.
Sur le volet politique, on a vu votre programme. Alors là, on n'a pas tout détaillé parce qu'il faudrait un petit peu plus de temps, mais la campagne ne fait que commencer.
On reviendra.
On le voit aussi, un autre candidat, Stéphane de Saillé-Dupin, qui représente la droite à Lamballe, le disait à ce micro. J'avais envie d'avoir votre sentiment. Pour être maire d'une commune telle que Lamballe, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir un vécu politique. En gros, ça ne s'improvise plus aujourd'hui d'être maire, ou ça ne s'improvise pas?
Non, ça ne s'improvise pas. Il y a plusieurs conditions. La première, c'est d'aimer absolument le territoire dans lequel on s'engage. Moi, c'est le cas. J'y ai grandi. Depuis mon plus jeune âge, j'y suis. Je le disais encore hier à des interlocuteurs. Petit, j'y pratiquais le sport. J'y ai passé mon bac. Je suis revenu y vivre et pour y fonder une famille. Donc ça, c'est la première des conditions. La deuxième, c'est effectivement d'avoir un projet clair, d'avoir une vision pour son territoire. Encore une fois, je le disais, je ne crois pas à l'apolitisme. Évidemment qu'on peut dépasser les clivages par le travail pour essayer d'avoir une vision pour ce territoire. Mais il faut quand même des convictions et il faut un projet clair pour le territoire. Moi, c'est le cas, j'en ai exposé une partie et j'en profite pour inviter à mon premier meeting de campagne mercredi prochain, le 17 décembre à 20h, où nous présenterons bien davantage encore certains nombres de mesures. Et puis ensuite, oui, il faut se préparer. Moi, je suis prêt. Ça fait plusieurs années que j'y travaille. J'ai eu l'occasion de travailler dans une municipalité. Je sais comment cela fonctionne. Et puis, je suis entouré, parce que c'est une liste, je ne suis pas seul. Je suis entouré d'une bonne douzaine d'élus actuellement élus dans la majorité actuelle, qui ont été élus avec Philippe Hercouet comme avec Loïc Corret, précédent maire, et qui travaillent avec moi et qui ont de l'expérience, la maîtrise des dossiers en cours et qui permettront d'avoir de la stabilité sur un certain nombre de dossiers majeurs, parce que je crois que dans l'instant, il y a aussi besoin évidemment de renouvellement, je l'incarne, mais de compétences et de stabilité, et mes colistiers l'incarnent.
Il faut un peu de décentralisation aussi dans tout cela. Ce sera ma dernière question, vous avez 30 secondes.
Bien sûr qu'il faut de la décentralisation. Il y a tout un tas de sujets, excusez-moi de le prendre sur ce ton, parce qu'en 30 secondes c'est complexe, mais il y a tout un tas de sujets qu'il faudrait traiter à l'échelle communale, d'autres à l'échelle régionale. Je repense à la santé, où Loïc Chesnais-Girard, président du conseil régional, se bat pour que la santé puisse être traitée à l'échelle régionale avec des ARS davantage politisées. Il a absolument raison. Et puis évidemment, à l'échelle locale, intercommunale, nous aussi, nous avons un certain nombre de compétences qu'il faudrait que l'on récupère. Et à l'inverse, je le dis, la décentralisation devra aussi aller de pair avec le fait que l'État assume ses pouvoirs régaliens, comme on en parlait tout à l'heure sur la sécurité.
Et on va devoir s'arrêter là. Antoine Ravard, premier secrétaire du Parti Socialiste des Côtes d'Armor, candidat au municipal à Lamballe-Armor et porte-parole du PS. Merci d'être
venu. Merci, bonne journée.
En direct ce matin au micro de Bretagne 5 matin. Très belle journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.